Elle a dit que la période dans laquelle nous sommes est une période qui fait le lien entre la fin de l'exil et le début de la délivrance. Par conséquent, il y a beaucoup de changements qui se perdent et l'époque dans laquelle nous sommes est une époque complète. Car elle est en fait contenant des choses qui peuvent paraître d'une manière paradoxale. Donc nous devons comprendre les paroles du prophète pour essayer d'appréhender cette époque. Le prophète est donc le prophète Isaïe, au chapitre 40, verset 9, et il nous dit Al-Har Gavoa Alilach Mevaseret Sion, sur une montagne haute, qui doit monter celle qui annonce Sion. On a expliqué que Sion, c'était en réalité un degré caché de la délivrance. Autrement dit, ce sont des choses qui peuvent paraître physiques, matérielles, et donc la vista est cachée à l'intérieur, juste ici la voix. Conséquence, si je ne monte pas sur cette montagne, je risque de ne pas comprendre ce que la vie là. C'est tellement caché que je pourrais conclure qu'il ne s'agit pas de la ville, parce que ça va être caché par des événements, par des personnes qui ne sont pas peut-être forcément dans la Torah, avec des choses qui sont inverses parfois à la Torah. Et donc je peux dire facilement, ça c'est sûr que ce n'est pas la ville. Pour ne pas arriver à cette conclusion, le prophète, donc, à Kadosh Baruch Hu nous dit, il faut monter sur une montagne très élevée. Car si tu ne fais pas cet effort, c'est-à-dire si tu n'élèves pas ton étude, si tu n'approfondis pas ton étude, tu pourrais arriver à ce genre de conclusion. Donc la Géoula commencera et toi, tu l'auras raté. Tu ne verras rien. Parce que tu n'as pas la vision nécessaire pour te donner. Or, la vision nécessaire ne peut pas se faire du niveau dans lequel tu es. Il faut monter très haut pour voir les choses avec un autre œil. Deuxième passage, Harim Bakor Kolech Mevaker et Yerushalayim. La même chose concernant Yerushalayim, qui est cette fois-ci la partie révélée, donc la partie féminine par rapport à Sion, qui est une partie masculine de la Géoula, car Sion c'est Yosef, et Yerushalayim c'est la Malchoute, la royauté. Et bien pour voir la royauté d'Israël aussi, la Malchoute, il faut Harim Bakor Kolech. Élever le col, c'est une voie intérieure, à un niveau assez haut, c'est-à-dire que si je ne vais pas au décor, au potentiel des choses, je risque là aussi de rater la Géoula concernant Yerushalayim. Harim al-Tirai, nous sommes dans la quatrième ligne, élève ce niveau de conscience et n'aie pas peur. Pourquoi n'aie pas peur? Parce qu'apparemment, tu pourrais avoir peur, parce qu'on va essayer de te refroidir. L'Imri le Haré Yehuda, et tu devras dire, avec beaucoup de courage, aux villes de Judée, Yine Elohechem, voici votre Elohim. Quel est le nom de Elohim? C'est le nom qui s'habille dans la nature, d'accord? Autrement dit, pour annoncer Elohim, il faut être en Eretz Israël. Pourquoi? La Gemara nous dit que quiconque habite en dehors d'Eretz Israël ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Elohim. Donc Elohim, le nom de Elohim, ne peut pas se manifester en dehors de la terre d'Israël. Comme ça dit la Gemara. Moralité, si je veux voir l'apparition, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu réellement dans mon monde, dans ma vie, ça doit se faire en Eretz Israël. Et pour cela, il faut donc voir que les choses sont en train d'avancer, que le processus est bel et bien avancé. Pour ceci donc, je résume, il faut monter sur une montagne très haute, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire tout ça, et élever l'essence de sa parole, c'est-à-dire sa voix intérieure, à un niveau très élevé. Avec des mots simples, si tu ne montes pas de niveau au moment du dévoilement messianique qui risque de tout rater. Pourquoi ? Parce que le moment messianique ressemble étrangement à une femme qui accouche. Et au moment où une femme accouche, bien, apparemment, toute la femme, avec toute sa vie, vont dans le même sens, c'est-à-dire le bébé. Et paradoxalement, au moment même de l'accouchement, elle va faire quelque chose qui est contre pour dévoiler ce bébé. Ça s'appelle des contractions. Écoutez bien les mots, une contre-action. C'est-à-dire qu'elle va aller dans un sens inverse au sens qui devrait amener ce bébé. Eh bien, le matriarche est comparé à la naissance, et les Chachamim nous disent dans la Gemara qu'il y a une notion qu'on appelle chesmématia, les contractions messianiques. C'est-à-dire qu'il va y avoir un temps où les choses que vous allez voir dans la rue vont aller contre le mouvement, contre Akadosh Baruch Hu, contre ce que la Torah te dit, contre tout ce que tu as l'habitude de voir, et tu pourrais arriver à la conclusion que ce n'est pas la Géoula. On est clair? Ok. Clomar, c'est que Dei le Havi, Nek Mahalaché Géoula, Rona. Donc en réalité, pour comprendre le processus de la dernière délivrance, celle dans laquelle nous sommes, Alléluia Alot, ou le Hit Alot. Nous devons monter et nous surmonter, nous dépasser en fait, à Hargavoa, pour arriver à cette montagne très haute. Rakmina Gova Haraoui, Leota Osma Geouli, parce que seulement de cette hauteur-là, qui est nécessaire pour voir l'intensité de la Geoula, tu t'affaires à Yahanechona, tu pourras voir réellement ce qui est en train de se passer. Le Kola Senogia, le Géoulatène, concernant tout ce qui est en train de se tramer pour notre délivrance. Autrement dit, si tu ne fais pas cet acte-là, si tu ne montes pas, si tu ne changes pas quelque chose dans ta vision, tu pourras ne pas voir. Tu ne verras rien. Tu seras dans le noir alors que nous sommes en pleine lumière. Moralité, tu sombreras dans le pessimisme. Tu vas tomber dans une période d'angoisse et tu vas te dire toute la Géoula qu'on a attendue pendant 2000 ans, c'est sûr que ce n'est pas ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Yeshna Brisha Amuka. Donc, puisque le prophète parle, qui est le prophète en fait? Akadosh Baruch Hu lui-même. D'accord? Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui parle à travers la bouche du prophète. Un prophète ne parle pas, il n'invente pas des mots. Donc, il parle ici, à Kadosh Baruch Hu, il prophétise l'homme et il lui fait passer le message. Donc, qui nous demande à la dernière Géoula de monter sur la haute montagne? À Kadosh Baruch Hu lui-même. Pourquoi il nous demande cela? Parce qu'il sait très bien à Kadosh Baruch Hu que nous, par rapport à notre vision des choses, on pourrait tomber dans le pessimisme et se dire et conclure que nous ne sommes pas encore dans une période messianique. Donc il faut élever les yeux. C'est le Chaben Otan, et pourquoi il faut élever les yeux? Là il y a un secret pour le Chaben, les ajuster et la Enaim Elyonot par rapport aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu n'a pas des yeux comme nous. Mais il a une vision du monde. Ce sont des expressions. Tant que moi, l'homme, je ne vois pas avec mes yeux comme Akadosh Baruch Hu lui-même voit la vie, je suis en décalage par rapport à lui et je ne vois rien de vrai. Je répète ce que je viens de dire. Tant que je ne monte pas mon niveau de vision au niveau de vision d'Akadosh Baruch Hu, comment est-ce que je peux faire ça par l'étude de la Torah? Si cette étude va me pousser à voir les choses avec les yeux de l'Éternel, mais tant que je ne fais pas ça, je ne peux pas réellement arriver à la vision vraie des choses, tout sera faussé. Donc on pourra tirer des conclusions alors que tu n'as rien vu et tu crois voir des choses, et c'est pour ça que le prophète, il y a eu encore une fois, au chapitre 52 cette fois-ci, il dit « Ki'ayn ve'ayn yir'u » Pour arriver à voir, il faut que « Ayn ve'ayn » ton œil, humain, va être au même niveau que l'œil divin. « Ayn ve'ayn » Alors, « yir'u » tu pourras voir. Tant qu'il n'a pas ajusté ta vision à la vision divine, tu ne pourras pas voir. Pourquoi seulement le verbe voir qui n'est pas autre chose? Pourquoi c'est le sens de la vision? Parce que c'est le sens le plus profond, le plus éminé. Quand je goûte quelque chose, je le goûte de près ou de loin? De près. Donc, le sens du goût, c'est quelque chose de très proche de moi. On monte de niveau. Regardez, dans le corps humain, j'arrive à l'odorat. Est-ce que je peux sentir un petit peu plus loin que ce goût? Oui, je peux sentir à 3, 4 mètres, 100 mètres, 200 mètres même, si c'est de la fumée. Donc j'ai augmenté mon niveau. Troisième niveau, je passe à l'oreille. Est-ce que je peux entendre plus loin que ce que je peux sentir? Oui, il y a des choses à des kilomètres qui entendent quelque chose que l'entendent. Je passe à un niveau plus élevé, encore la vision. Est-ce que je peux voir plus loin que ce que j'entends? Oui. Ça veut dire que le degré de la vision, c'est le degré le plus élevé dans les cinq sens que l'homme possède. Et donc, si je veux arriver à cette vision, donc à voir loin, pas seulement au niveau de la vie, mais voir loin au niveau de ton cerveau. C'est comme ça l'expression, il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Ça veut dire qu'il voit très proche, c'est un petit. Quelqu'un qui voit loin, c'est quelqu'un qui prévoit. Donc, si tu veux prévoir et voir loin dans ta vie, voir grand dans ta vie, eh bien, il faut que le niveau de vision soit acquis. C'est toi. Comment s'appelle la Torah de l'exil? La Torah de la vision, la Torah de l'ouïe? De l'ouïe. Dans la Gemara, quand on veut expliquer quelque chose à quelqu'un, qu'est-ce qu'on lui dit? Viens et écoute. Tashma. Par contre, dans le Zohar, c'est la Torah d'Eretz Yisrael, quand on veut expliquer à quelqu'un quelque chose, qu'est-ce qu'on lui dit? Tachazi, viens voir. Ça veut dire on est monté du niveau. Donc, Akadosh Baruch Hu nous dit ici, par la bouche du prophète, qu'il y a un des Aïnirou, si tu veux arriver au sens de la vision des choses, donc à la Torah d'Eretz Yisrael, il faut que tu fasses un effort. De quoi? De monter ton niveau de vie. C'est ça, monter sur la montagne haute. Bien entendu, on ne va pas se balader avec des sapadeaux pour monter sur une grande montagne, ça ne veut rien dire. Ce sont des expressions du prophète qui nous expliquent que tant que je n'ai pas monté la qualité de mon étude, je ne pourrai pas atteindre ce degré de vision donc de la Torah de Ré-Israël. Et si tu n'as pas la Torah de Ré-Israël, tu manques de l'essentiel. De quoi? De tout va s'en. Je répète le verset, qui a un dernier haut, si tu veux voir, de tout va s'en, le retour d'Akadosh Banco à Sion, tu devras atteindre la Torah de la vision, donc la Torah de la Tisère. Avec mes mots à moi, simplement, si tu n'as pas la Torah profonde, qui est reliée, qui est relative à la vision de l'homme, tu ne pourras pas voir l'avènement messianique quand ta Kadosh Baruch Hu va revenir à Sion. Et tu vas pouvoir rater toute la vie où là. Tu ne diras aller sur rien du tout, parce que rien du tout de tout ce qui se passe, c'est la vie où là. Ça ne sera toujours pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Donc les choses vont se faire, et toi tu vas être dans une maladie qui est très grave, qui s'appelle le déni. C'est comme une femme qui est enceinte, mais elle refuse d'être enceinte. Vous savez ce qui se passe? On ne voit pas le bébé. Il pousse à l'envers. Vous savez ça? Donc elle a mal au ventre. Elle ne sait pas ce qui se passe. Il n'y a rien. Le ventre est plat. Attention, hein. Médicalement, hein. Elle va à l'hôpital. Et on dit, mais vous êtes enceinte, vous allez accoucher dans 5 secondes. Elle va afficher un bébé qui, au lieu de grandir en relief, il a grandi en creux. Pourquoi? Parce qu'elle a été dans cette maladie qui s'appelle le déni. Quand tu arrives au bout, tu n'es même pas censé, tu n'as rien préparé, tu ne sais même pas ce qui se passe, et la déroula te tombe alors que tu n'es même pas prêt. Pour ne pas arriver à cette situation, il ne faut pas tomber dans cette maladie qui s'appelle le déni. Et il faut savoir voir quand Akadosh Baruch Hu fait les choses devant nous. Et pour cela, donc, il faut élever le niveau de la vision. Je dis les questions à la fin. Je vais être du cas. Verhatiba le cas, marquez-les. Mouvenet est la raison et très simple. Elle est comprise. Rabbi Mehmasberé Akrufa Verhado. Beaucoup de perturbations. Beaucoup de crises vont avoir lieu dans cette période messianique. Si tu n'es pas fort, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas tomber dans la déprime, dans la dépression. Parce que tu n'as pas étudié suffisamment à quel niveau te mettre pour voir les choses correctement. Il y aura beaucoup de crises qui vont t'empêcher de voir ce processus. Tu ne verras rien. Atre de l'Ikar, il y a une faute là, au lieu de Kol, c'est Tar, Atre de l'Ikar, jusqu'à au point où c'est Yunivhalim Hadjoula. Les gens vont avoir peur de la Géoula. Parce qu'ils ne savent pas du tout à quoi s'attendre, ils ne savent pas du tout de quoi on parle. Et la plupart des gens à qui vous demandez qu'est-ce que c'est que la Géoula, personne ne sait rien. Pas même pas des gens qui étudient. Plus encore, les gens qui ne s'y pas. Chacun, pour lui, la Géoula, c'est une bande dessinée qui s'est créée. Et il ne comprend même pas ce qui est en train de se passer, à quoi cela doit ressembler. Ils inventent des choses, c'est un fantasme. La Géoula, ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas des choses qui viennent de l'au-delà, c'est des choses réelles qui vont se manifester devant nos yeux, c'est-à-dire dans la nature. Si tu n'es pas capable de les voir, c'est que ton étude n'est pas assez élevée. Pourquoi je dis ça? Parce que plus tu es élevé, plus tu as conscience de la sainteté du corps. Les gens petits pensent que la sainteté n'est que dans l'âme, sa main. Donc plus tu es petit, plus on te pose la question où est la sainteté, tu vis dans l'âme, sa main. Le corps, c'est n'importe quoi le corps. Plus tu es grand, plus tu te dis ça du tout. La même sainteté qui est dans la Nechama, c'est la même sainteté qui est dans le corps, à la seule différence. C'est que la sainteté de la Nechama, c'est facile de la voir, mais la sainteté du corps, il faut faire beaucoup de travail pour la dévoiler. Mais les gens qui ne comprennent pas, ils se disent la Nechama, c'est la chose la plus importante. Donc le corps ne sert à rien. Alors je pose une question, pourquoi quand quelqu'un nous dit on s'occupe encore de son corps, il n'y a pas le mettre dans un sac poubelle, de les jeter, puisque c'est que la Nechama qui est importante. Pourquoi il faut lui faire une tahara? Pourquoi il faut le laver? Pourquoi il faut l'habiller? Ben, tout simplement parce que le corps a une fonction qu'aujourd'hui, malheureusement, l'homme ne connaît pas. Parce qu'on nous a habitués à croire que seule la Nechama est Kodesh et que le corps ne vaut rien. Ce n'est pas du judaïsme. Moralité, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, les gens se disent qu'est-ce que c'est Mashiach, Torah, Bekabegda, tant qu'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Et là, on est en train d'étudier qu'avant cela, il y a un Mashiach qui va s'habiller dans le corps des choses. Et ce corps, par nature, il cache. Donc, si tu n'as pas la vision nécessaire, tu ne verras rien, tu ne comprendras rien à tous les événements qui sont en train de se faire, de se réaliser devant tes yeux. Et toi, tu attends toujours une date, juste l'apparition du Messie, Mashiach. Alors que Oro, c'est le Mashiach, la lumière du Mashiach, et bien avant le Mashiach lui-même. Là, on est en train d'étudier Oro, c'est le Mashiach. On est en train d'étudier une étude qui est déjà en train de nous faire toucher la lumière messianique avant l'apparition de l'homme. C'est clair? Donc les gens vont avoir peur de la Géoula. Et pire encore, ils vont désespérer. Il n'y a plus d'espoir. Ou martyrie d'Ehem Chach de Shalom, ils vont tout lâcher en se disant, c'est ici, on nous a assez d'assumer, il ne se passe jamais rien, ça doit être juste une carotte qu'on nous présente pour qu'on avance et qu'on gagne en s'arrête. Mais en réalité, il n'y a rien du tout. À partir du moment où tu tombes dans cette dépression-là, Chach de Shalom, tu es sorti. Tu es sorti du jeu, toi-même, tu es tombé dans la dépression des choses, donc tu ne peux plus voir les choses, tu es dépressif. Rak ha'olim al hargaboa. Moralité, je reviens. Je suis désolé, c'est un peu récurrent, mais c'est très important comme tu dis. Seulement ceux qui montent, qui se hissent à cette montagne, d'abord, Sophim ou Mezunim et Me'at Miratal, ils pourront voir. Qu'est-ce que c'est Sophim? Non, voir mais plus loin que les yeux, c'est-à-dire avec une tête, avec des images. C'est-à-dire, seulement ceux qui montent haut peuvent voir loin. Quand je monte haut, je vois plus loin. D'accord? Donc, Akadosh Baruch Hu nous donne un symbole. Plus tu monteras haut dans ton étude, plus tu verras loin dans ta vie. Plus tes regards sont à où je vais manger ce soir, c'est vraiment petit. C'est ce qui se passe en Europe aujourd'hui. C'est quelle ressource que ce soir. Il n'y a rien d'autre. Nous, ici, on est en train de développer une Torah qui va loin. On est en train de voir des années, des millénaires en avant. Alors que les gens qui n'ont rien dans la vie, qui sont vides, ben pour eux, rien que cet après-midi où je vais manger à midi, ça me suffit, quoi. C'est tout ce qui vous intéresse. Donc, plus tu montes haut dans ton étude, plus tes espérances sont grandes, plus tu rêves. Donc, tout va s'aimer, tu vas s'y en aller. Si tu ne restes plus dans ta vie à des grandes choses, tu n'y arriveras jamais. Parce que tu t'es habitué à être quelqu'un de petit, détriqué, de mesquin. Il faut voir loin pour arriver à quelque chose. Et ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Avec un mot très simple, il nous demande de grandir. Et arrêter d'être des petits bonhommes qui font la Torah et les mitzvot tranquillement dans leur petit coin. Et d'avoir, en fait, des visions grandioses. C'est pour ça que les études qu'on est en train d'étudier au Machon sont des études de visionnaires. Le Rav Kook est un visionnaire, ce n'est pas seulement un Talmid Chacham, il s'occupe des générations jusqu'à et après l'avènement messianique. Et donc tu peux et tu pourras accéder au processus dans son intériorité. A Pnimim Mimagamato, tu vas comprendre aussi quel est le sens de toute cette création. Vers quoi Kadosh Baruch Hu veut aboutir, vers quoi il nous amène. Il promet un effet, c'est le gobro, c'est le hargaboa. Donc l'élévation de la Neshama sur cette montagne, qui est très haute, maintenant la Adam est à Kelim Amelouchadim, le Sminat à Kol. C'est grâce à ça seulement que tu pourras entendre la voix. Rappelez-vous que c'est une voix, c'est quelque chose de profond. C'est pas quelque chose de superficiel. Comme le chauffard. C'est pas un son. C'est quelque chose qui te fait vibrer de l'intérieur. Un exemple. Pour vous montrer la bêtise que les gens ont par rapport au Mashiach. Beaucoup d'entre nous pensent que le jour où le Mashiach va venir, alors il va sonner le shofar. Donc si vous allez entendre le shofar, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Et je peux vous dire quelque chose que vous ne savez peut-être pas. Le fait que vous soyez ici maintenant, en l'écriture, que vous avez déjà entendu ce shofar, c'est celui qui vous a dit par toi. Il est cru, hein, le chauffard du Mashiach. Il te dit, quitte, c'est fini, t'as plus rien à faire ici, va-t'en. Donc vous l'avez entendu, Rabotai. Vous l'avez entendu, ce chauffard. Là, c'est en train de vous faire plaisir parce que vous n'êtes même pas rendu compte que vous l'avez entendu. Parce que vous, vous attendez à un chauffard. Pas besoin. Si aujourd'hui, la Torah te pénètre, Et bien c'est comme si tu venais d'entendre le chauffard. C'est ça le chauffard. Chauffard, c'est la racine du mot sipour, c'est-à-dire qui t'améliore. À partir du moment où ma parole est en train de t'améliorer, c'est le chauffard. Les élèves du Baal Shem Tov, à la Bachalom, disaient de leur maître, à chaque fois qu'ils sortaient d'un cours, on était au Mont Sinaï. Pourquoi ? Parce que les paroles de notre maître nous pénètrent tellement que c'est comme si on était maintenant au Mont Sinaï et qu'on a entendu encore une fois les 10 paroles et le chauffard est ici derrière. C'est ça que ça veut dire. Vous comprenez bien qu'il n'y avait pas du feu et des chauffards. Mais les paroles du maître étaient tellement feu que l'élève a ressenti et s'est réchauffé de ses paroles. C'est ça la conscience. Donc vous avez entendu le chauffard. Et dans Baruch HaShem, à la grande différence de beaucoup malheureusement, qui ou ne l'ont pas entendu, ou bien l'ont entendu, et encore une fois sont tombés dans le déni. Non, moi j'entends rien. Une maladie. Vous avez entendu, et vous avez fait vos valises. Comme Abraham Avinu. Abraham Avinu, il a entendu, et il a fait ses valises. C'est ce que dit Rashi. Shama Bekibel. Il a reçu le message. Il a commencé à l'appliquer. Donc, pour entendre cette voix profonde, il faut que tu montes sur cette haute montagne. Alors, je peux vous rassurer une deuxième fois, deuxième coup. Au Mahon Meir, vous êtes sur la grande montagne. La Torah que vous recevez ici, c'est une Torah de la haute montagne. Vous savez ce qui se passe dans les hautes montagnes? Il y a beaucoup trop d'oxygène. Donc on peut se sentir mal, comme si on était en train de s'évanouir. Il y a tellement d'oxygène, parce que vous avez tellement peu l'habitude de respirer convenablement, que si tu te mets un petit peu d'oxygène, qu'est-ce que tu veux? Tu t'endors. Bon, c'est comme ça qu'on endort. Si vous endormez quelqu'un, qu'est-ce que vous faites? Je lui mets une bouffée d'oxygène, il respire tellement, et là, si vous voulez vous endormir, c'est facile. Faites la respiration sur votre lit, à fond. Vous dormez en 5 secondes comme un bébé. Les gens qui ont du mal à s'endormir, 20 respirations. Vous n'allez même pas arriver à 20, vous allez vous endormir au milieu, si ça ne fait même pas à quel moment tu t'es arrêté. Comme si on t'a venu à un ballon d'oxygène pour que tu aies été. Et vous allez dormir mieux qu'un bébé, parce qu'un bébé se réveille tous les 3 heures. Donc dormir comme un bébé, ce n'est pas une bonne référence. Donc ça c'est le col. À col à finir dans cette voie intérieure, à méchonner le col à salir. Vous allez comprendre en réalité si c'est avancé, si c'est processus. À col à zébale horaire et puis le privation. Et quel est le sens de cette voie? Comme je l'ai dit, vous l'avez entendu, la preuve c'est que vous êtes là. Cette voix, elle a un seul message. C'est simple. Qu'est-ce qu'elle dit? Ne le pas. C'est tout. Revenez à Sion. Tu l'as fait, tu as entendu cette voix. Astrechem, j'ai appris quelque chose. Heureuse soit votre part parce que vous avez entendu cette voix. Parmi beaucoup de gens qui, encore une fois, malheureusement, ne l'entendent pas. Là, à l'autre, à l'Hargazoa, donc monter sur cette montagne, c'est tout simplement voir la même existence, mais dans notre niveau. C'est partout. Quand vous jouez aux échecs, parfois vous ne voyez même plus le jeu. Et celui qui est debout, à côté, il se dit « Oh là 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 là, arrête, laisse-moi jouer. Ah, mais tu ne vois pas, arrête !» Pourquoi il voit plus que toi? Parce qu'il est haut. Il voit en réalité l'ensemble. Quand tu es trop dans la tête, tu ne vois plus rien. Donc celui qui est debout à côté du joueur voit mieux que le joueur lui-même. C'est terrible. Et bien c'est exactement sur cette montagne qu'il faut monter pour voir l'ensemble du jeu. Donc tu vois la même existence, mais à un autre étage. Il y a vite Réa Elohim et Amouka. Donc, ton angle de vision est ton angle de vision divine, d'un divin. Donc, tu vois la même chose avec un autre œil. Je vais vous donner un exemple très simple dans notre vie. Deux personnes sont face au même phénomène. L'un va pleurer, l'autre va rire. Ça arrive toujours. Quelle est la différence entre les deux? C'est la manière qu'il a eu de construire pour voir cet événement. Rabbi Akiva et le sage d'Israël voient le même événement. Quoi? Un renard sortir du sein des saints au moment de la destruction du temple. Donc il n'y a plus rien. Il y a même des renards qui se baladent là-bas. Tous les chachamim se mettent à pleurer. Rabbi Akiva s'éclate de rire. Et la chachamim dit à Rabbi Akiva, mais comment tu peux rigoler? Il dit, mais comment vous pouvez pleurer? Ils ne comprennent pas. Il dit, vous ne comprenez pas, vous regardez en fait, maintenant, ici. Moi je vois loin. Vous voyez le présent, et le présent c'est quoi? La destruction du temple, il y a un renard. Mais moi je vois loin, je vois que si la prophétie qui parlait de la destruction a lieu, c'est que la prophétie continue, après il y a la reconstruction. Donc je vois plus loin. Mais c'est exactement dans notre vie pareil. Si tu vois le problème que tu as aujourd'hui, vous avez des problèmes, cette semaine vous avez eu des problèmes, chacun. Mais si tu t'arrêtes au problème de maintenant, tu peux rentrer et sombrer dans la déprime. Mais si tu te dis, attends, ce problème, dans un mois, c'est fini. Je vais passer à autre chose. Je vais dépasser. Mon but est beaucoup plus grand que ce petit coup. Eh bien, tu pourras dépasser facilement. Encore un exemple. Quand vous voyagez, par exemple, à la mer Morte, et vous dites, bon, on voyage à la mer Morte. Sympathique. Ça va vous prendre à partir d'ici à peu près une heure et demie. Mais si vous voyagez là, et vous prenez la même route, vous passez par la mer Morte, et bien la mer Morte va vous faire être comme si c'était 10 minutes depuis que vous êtes parti. Parce que votre vie est beaucoup plus loin. C'est la même chose dans votre vie. Si tu te fixes quelque chose, c'est là-bas où ta tête va marcher. Mais si je fixe loin, eh bien, ce petit passage, je ne dis plus, j'ai l'impression qu'il n'y a même pas de limites qui sont passées parce que moi, je vais arriver à là. C'est comme ça dans votre vie. Quand vous allez tirer, quand vous allez apprendre à tirer, si vous tirez avec le canon bas, ben, la balle ne va pas aller très loin. Plus le canon monte, plus la trajectoire est longue. C'est la même chose. Donc on apprend à viser en montant le canon alors que tu as l'impression qu'il n'est pas du tout par rapport à la cible. C'est tout un travail pour savoir le vent, pour savoir quel niveau, quel angle. Mais c'est la même chose dans notre vie. Plus vous visez haut, plus vous allez aller loin. Ne voyez pas la vie en petit. Le peuple d'Israël a toujours pensé des choses du lointain, c'est pour ça qu'il réussit. Vous savez qui a inventé tous les bonhommes qui sont des X-Men? C'est lui. Batman, Spider-Man, tout ça, c'est des Juifs qui les ont inventés. Pourquoi? Parce que le Juif ne supporte plus d'être coincé, donc il voulait voler. Donc il a inventé des personnages qui volent, qui n'ont plus de limites. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu rêves moins que cela, tu vas être petit dans ta vie. Vous n'êtes pas venu au Machon Meir pour étudier la Torah à un petit niveau. Vous êtes venu ici pour étudier la vie. C'est une éducation qui va vous rester tout au long de votre vie. Je connais des gens qui étaient au Machon Meir depuis 35 ans, 40 ans. Aujourd'hui, ils sont des sommités. Et ils se rappellent de ce passage. Parce que la Torah qui est enseignée ici, elle est différente. Elle t'aide à grandir. Elle ne t'apprend pas seulement je peux pas, oui, non. Moi, j'ai étudié cette Torah. je suis sclérosé pendant des années. J'ai passé des mois à apprendre une halakha si je peux porter Shabbat et comment je peux porter ou pas porter. C'est bien, c'est important. Mais combien d'années tu t'es passé là-dedans? C'est tout ce que ça a pris, comment faire ta ceinture pour Shabbat avec du clé et machin. Tu ne peux pas avancer dans ta vie. C'est un vide à une vie petit et tricot. Alors ça, c'est important, c'est à la cause. Mais quand c'est à la cause sort du grand Dieu, alors elles ont un sens. Mais si tu commences par ça et tu restes à ce niveau-là, tu vas finir toi-même par une ceinture. Tu vas devenir toi-même ceinturé. ולא להסיק מסקנות ממה שלכאורה נראית במציאות לעיניים הבשריות שלנו. Donc il faut faire très attention à ne pas tirer de conclusion avec nos petits yeux. Tant qu'il ne voit pas avec les yeux d'Akadosh Baruch Hu, il est encore limité. Oui, vous allez me dire, mais comment on peut arriver à ce niveau-là? Mais c'est en train de vous dire. C'est ce que vous êtes en train de vous dire ici. Le titre que vous êtes en train de recevoir ici au Mahon, c'est une étude qui vous ouvre les yeux pour voir l'existence comme Akadosh Baruch Hu lui-même la voit. Et c'est pas de l'orgueil. Car c'est lui qui nous a donné cette Torah pour nous permettre de dire ça. Al-Hajavo Alilach Nevaser et Sion. Je reprends le verset. Quand vous allez le rencontrer, ce verset, un jour, vous allez vous dire, maintenant je comprends. Car pour l'Imirot est un Yeshua d'Akrulis en Israël, ce Kulo Kodesh. Seuls ceux qui montent à ce niveau peuvent voir la Segula. Vous avez sûrement dû entendre parler déjà, ici au Mahon, de la Segula. Qu'est-ce que c'est que la Segula? Comment vous la traduisez? Votre capacité intrinsèque, celle que vous avez reçue d'Akadosh Baruch Hu au moment de votre naissance. Moi, j'ai reçu d'Akadosh Baruch Hu des cadeaux. Ok? Maintenant, ces cadeaux ne sont pas encore dévoilés. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que je suis encore petit et je ne suis pas assez entraîné à dévoiler les cadeaux que j'ai en moi. Bah, qu'est-ce que je dois faire durant ma vie? M'entraîner. À quoi faire? À vivre les cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné. Comme un... J'ai reçu un portable. Ok? Je m'entraîne pendant 40 ans à appliquer toutes les applications qui sont dedans. Moi, je reste au niveau de la ceinture. C'est-à-dire, appel, et tu reçois un appel. Et tu ne fais rien d'autre. Un jour, tu rencontres le spécialiste qui a conçu ce portable. Et tu dis, ah, je suis content. Vous utilisez deux applications de votre portable, c'est magnifique. Il va te regarder, il va dire, il est fatigué le corps. Il y a 10 000, 30 000, pas compris. Mais c'est la même chose. Akadosh Baruch Hu nous a créé avec des millions d'applications. Combien vous utilisez? Sortir un appel et le recevoir, Allah il sort. C'est ça où vous sortez votre niveau? C'est à ça que je suis en train de faire référence. Sachez qui est le fabricant. Quand vous rentrez sur Internet pour aller chercher quelles sont toutes les applications possibles et imaginables, vous rentrez aussi dans Internet intérieur et vous allez comprendre toutes les applications d'Akadosh Baruch Hu placées en vous. Et vous allez voir si vous ne pouvez pas voler, si vous ne pouvez pas voler, hein, si vous ne pouvez pas être prophète, si vous ne pouvez pas voir l'avenir, et gérer toute votre vie et à abolir et annuler la mort. Je ne m'en crois pas. J'ai l'impression que je suis en train de vous raconter des histoires. À dormir debout. Mais c'est exactement ce qu'on demande les premiers jours de l'année. Toi, Dieu de la vie, inscris-moi dans le livre de la vie. Je veux plus mourir. Je veux que la mort soit annulée de ce monde. Pas moins que ça. Je vous ai dit tout à l'heure, si tu vois loin, tu pourras avoir tout le Dieu. Kotvenu, Kotmenu, Besefer Chaim, le Ma'anach Elohim Chaim, tout est Chaim. Elle a coutume dans les Mishpatim, à Shiri Asher Otam, à Adam, va Chaï Bahem. Donc, il doit dire, que de la vie. Moins tu vis, plus tu es mort. Et donc tu pourras, grâce à cette étude, en montant sur cette haute montagne, voir la goula de chacun de nous. C'est-à-dire, je ne pourrai plus te juger par rapport à ce que tu es aujourd'hui, parce que je sais que tu as reçu des cadeaux d'Akadosh Baruch Hu. Le seul problème, c'est est-ce que tu les as appliqués, est-ce que tu t'es entraîné à les dévoiler ou pas. Comment on peut enseigner les autres? Emuna, l'Itamon, c'est la même racine. Donc, si tu as fait de la Emuna. Donc, je m'entraîne. Moi, ça fait 40 ans que je m'entraîne dans mon atelier à faire des toiles et des œuvres qu'Akados Baruch Hu a placé l'art à l'intérieur de ma Neshama. Mais ça fait 40 ans que je l'ai déjà. Et c'est pas fini. Ça fait 50 ans que je m'exerce à donner des cours. Par Akados Baruch Hu, si je peux donner un cours aujourd'hui, c'est qu'il a placé en moi la capacité à enseigner. On est d'accord? Mais il me faut 50 ans d'exercice pour pouvoir, au début, je donnais un cours, je bégayais. J'avais honte, je ne pouvais pas regarder les gens en face. J'avais peur du public. Je ne peux pas entraîner. Mais c'est la même chose dans tous les domaines à votre âge. Vous avez des qualités à l'intérieur de vous, il faut tout simplement les décoder, les déceler. Là où tu es le meilleur. Tu dois sentir ça, chacun de nous le sait. Et tu dois mettre le sacré là-bas. Et t'entraîner pour sortir en fait le meilleur dans le domaine dans lequel tu excelles. L'imoud à Sanégoria à l'Israël. De là, j'arrive à un autre sujet. C'est seulement comme ça que tu pourras parler du bien du peuple d'Israël et le défendre tout le temps. Pourquoi je défends le peuple d'Israël? Pas parce que tu dis bidon, je veux, c'est sympathique, il nous a dit dans le cours, c'est bien de parler du bien. Non! Parce que le peuple d'Israël a été conçu avec ce bien à l'intérieur de lui, donc je ne mens pas. C'est ça la Ségoula. Je veux dire par là, ne dis jamais que la génération dans laquelle tu es aujourd'hui ne mérite pas le Messie. Vous entendez parfois des gens qui disent jamais le Messie ne viendra dans une Knesset pareille, dans une vie pareille, avec des gens qui font pas de sabbat pareil, on peut attendre, et pas demain la veille que le Mashiach va venir. Hein? Vous l'entendez souvent? C'est à tour. C'est à tour. Même quand vous entendez cela, et vous vous taisez, c'est à tour. Il faut dire à la personne qui n'a pas le droit de parler comme ça. Le peuple d'Israël est bon, il mérite la Géoula. Que tu vois, c'est seulement parce qu'il n'est pas monté sur la haute montagne. Vous allez regarder, mais c'est quoi cette montagne? Il va voir dans le verset, dans l'Isaïe, quel chapitre 40. Celui qui n'est pas monté sur cette montagne ne peut même pas savoir de quoi il est en train de parler. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, il y a un type, il avait un seul rêve dans sa vie, monter sur l'Everest. Il se dit, je me donne 15 ans de préparation. Il a 15 ans, il se dit, à 30 ans, je monte. Et il commence à se renseigner les hauteurs, les chemins, il rentre dans tous les sites possibles et imaginables, il s'entraîne, nuit et jour, il va acheter, machin, les années passent, il arrive à sa 30e année, tout est prêt, la descente, des appareils, tout ce que vous pouvez imaginer. Le type, il est armé jusqu'aux dents, il est fort, il peut tenir une montagne avec ses mains. Et il monte. Alors, je vous raconte pas la montée terrible. Des tempêtes de neige, des turbulences, des avalanches, tout ce que vous pouvez imaginer. Du froid, de la manque de nourriture, après moi, il s'est poursuivi par un ours. Et il arrive. Dernier degré, il met sa main et il lève sa tête comme ça. Et il met le drapeau. Et d'un coup, il voit des enfants courir. Et il pose la question, c'est quoi? Ça fait 15 ans que je m'entraîne. Il y a un petit peu de non, là, il s'en est aussi. Comprenez? Nous, ça fait 2000 ans qu'on s'entraîne pour arriver au sommet. il y a des petits-enfants qui sont nés ici, pour eux c'est naturel. Toi, pour comprendre ce que tu es en train de te raconter en hébreu, tu fais comme ça. Lui, le petit Israël, hein, il est né ici, parle couramment, normalement, c'est même jaloux de lui. Et comment il peut parler de ce petit bout de bouchon là, comprends-tu? Il est né ici. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu es en train d'essayer de vous faire passer comme message? Il y a des gens qui sont nés à l'extérieur, c'était l'exil. Vous faites partie de la dernière génération de l'exil et de la première génération de la Géoula. Donc vous êtes un petit peu sur les deux. Il y a des gens qui sont nés ici, c'est naturel pour eux. Ils ne comprennent pas ce que vous avez traversé. Mais il faut faire avec. Ça veut dire pouvoir faire en sorte qu'ils soient nés ici. Maintenant, je mettais mes filles. Je regarde par la fenêtre. Mais on habite dans un village, alors c'est facile, on voit des choses. Et on voit beaucoup d'animaux. Donc, je dis un renard. Pas de renard, une balade. Et d'agréable. C'est la fenêtre de la synagogue. Et je me suis dit, j'avoue, je suis parti de la savana de la fila. Et je me suis dit, regarde, même ce chat, même cette gazelle, même ce renard sont nés en Israël. Et la cadeau de quoi se mettre cet animal en Israël. Quel est son mérite d'être né ici? C'est pas une rigole, c'est dans ça. Mettre en Israël pour une fourmi, un cadeau. Mettre dans Eretz HaKodesh, un cadeau. Je ne suis pas en train de vous jeter la pierre, hein. Vous êtes né à l'extérieur. C'est pas de votre fait. Moi aussi, j'aurais pu naître à l'extérieur. Donc, c'est le premier ici. Mais c'est quelque chose qui est voulu par un cadeau de recours. Il y a des médicaments spéciales, même si c'est un autre degré. Une plante qui pousse ici. Elle a poussé en Eretz Israël, en Eretz HaKodesh. Elle a un autre degré. La preuve, c'est que la tomate de cette année, elle est projetée. C'est ça. Il y a des tomates, un concombre, Kodesh. Toi, Kodesh, tu connais que la synagogue. Oh, la Torah. Une tomate. Une carotte, Kodesh. Mais je suis sûr, t'as pas le droit de les jeter. Je veux que vous compreniez votre niveau. Et je dis, vous ne voyez pas ce niveau. Parce que vous êtes dans les mains. Mais quand vous allez sortir, et que vous allez rencontrer vos anciens copains, et que vous allez avoir un choc, mais aussi. C'est deux mondes. C'est deux mondes. Vous pouvez poser des questions. Ouais.
Par rapport à la
femme enceinte, c'est refusé de faire
l'enceinte.
Bien. C'est moi, je n'ai pas dit qu'elle veut refuser d'être enceinte. Je n'ai jamais dit que ça. Et au moment de l'accouchement, il y a un processus inverse qui est contre l'action d'accoucher.
Oui, c'est une femme qui
ne pas être enceinte. Ah, c'est ça, c'est le déni. La femme qui a le déni d'être enceinte. D'accord.
Ça existe.
C'est une maladie. D'accord. Qu'est-ce qui leur arrive? La Géoula, de toute façon, se passe, mais ils souffrent encore plus. Tu ne peux pas aller contre le verre. Tu ne peux pas aller contre le fleuve de la Géoula. Kadosh Baruch Hu, c'est un fleuve infini. Tu ne peux pas aller contre lui. Faisant un conseil, prends une barque et va dans le même sens que lui. Des petits mouvements, c'est comme prendre une base. Tu prends une vague, ou tu la prends en face, et tu peux nager pendant un quart d'heure, quand même malade mental, tu bouges ta derrière, ou bien tu prends la vague dans le sens de la vague, et au bout de 5 secondes, tu es déjà au bord. Quel? Quel? Qui ont déjà? Ça vient tout simplement parce que certaines personnes ont peur du changement dans leur vie. Comme ceux qui sont sortis d'Égypte, il y a 80% qui ont eu peur de ce changement, il n'y a que 20% qui sont sortis. Comme par exemple, certaines personnes, encore une fois, au niveau individuel, qui ont peur d'être heureuses. Donc à chaque fois qu'elles sont un petit peu heureuses, elles s'auto-sabotent. Elles tâchent leur bonheur. Donc, très attention, même dans un couple, tu vas avoir la femme de ta vie, au moment où vous êtes bien, des fois il y a un truc dans la tête du mec, pas possible que ce soit aussi bien, il faut qu'on fasse quelque chose. Allez. Après, c'est pas mieux. Pas la peine. Voilà. Donc, il y a une certaine peur du changement. Même si on est dans un espace médiocre, le pousser pour aller ailleurs, ça se fatigue. Si bien avec son préfère manger les carottes et les machins que vous avez en Égypte, c'est les pastèches comme vous. Plutôt que d'aller en quelle fête, quel changement.
On a parlé de cette voie intérieure, on a. Comment dans la vie
de tous les jours,
on peut la comprendre
et
pas la mal interpréter.
Bien fait. Tu as des maîtres. Donc à chaque fois que tu arrives à une conclusion dans ta vie, même si c'est une conclusion intermédiaire, vois comment elle s'inscrit dans l'ordre de la Torah que tu es en train d'étudier. Et si tu as un certain trouble, un certain flou, demande à ton maître. Est-ce que j'ai bien compris ce degré ou pas? Tiens.
D'accord. D'accord.
Là, c'est le deuxième travail, mais pas les entendre. C'est-à-dire, je dois être un éducateur qui dit à la nation, ne te repose pas sur tes lauriers, sur ce que tu as à l'intérieur. Comme j'ai fait moi, 40 ans, j'ai dit à la télé, je m'en fais. Il faut maintenant commencer à sortir tous les potentiels. Non, parce que c'est pas à toi de dire, tu sais pas. Toi, tu fais ton travail d'éducateur. Tu dis à la génération, sors plus que ce que ça fait, ça me sent formé. Je n'ai pas dit que maintenant tu n'es pas hâte de recevoir. Je te donne la lumière aujourd'hui, je te donne un cadeau, même si tu n'es pas encore au niveau 2. D'accord? Quand les enfants d'Élie sont sortis, les enfants du frère, Dieu leur a donné la délivrance de ce qu'ils vont devenir ou ce qu'ils étaient déjà? Ce qu'ils vont devenir. Voilà. C'est la réponse. Quelle? C'est l'homme
de l'Élie.
Pourquoi tu as pris la moitié de ce que j'ai dit? Ben oui, parce que l'autre moitié disait, il faut étudier le vent, il faut étudier les angles. Tu sais que ça t'arrête à changer?
Non.
On est d'accord? Je n'ai pas dit ça. Par exemple, je l'ai dit. Je l'ai dit, ça s'appelle un salaf en hébreu, et lui il apprend toutes les mesures, on ne va pas lui faire tirer en haut, t'inquiète pas. C'est quel? Et où? C'est sur la seule prière. Écoute bien de quoi ça parle, hein? Que du retour actuel. Exactement. C'est-à-dire qu'il doit, dans sa subjectivité, dévoiler l'objectivité divine. Et ne pas que la personne que tu es te trompe. Vous savez, ça mène à des conclusions qui ne sont pas telles que lui veut.
T'as raison.
Mais c'est une subjectivité qui dévoile l'objectivité. Donc elle va dans le même sens. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, tu vas dans le fleuve et l'objectivité, que toi tu rentres avec ta petite barque et tu vas dans le même sens. Et tu vas très vite. Qu'est-ce que la fonction du corps, c'est d'avoir, de dévoiler en fait le secret de la Neshama du corps lui-même. Le corps n'est pas seulement un ustensile qui contient une Neshama. Il a une Neshama propre. Malheureusement, on en a fait aujourd'hui qu'il y a un ustensile pour la Neshama. C'est faux. Le corps a une âme. Et c'est cette âme qu'on va dévoiler au moment du Mashiach.
Quel?
Le travail, c'est d'étudier la profondeur, de plus en plus. Le Zohar.
Quel? C'est le travail de voir le Zohar de moi, c'est pas le Zohar de moi, je me disais par la dernière mort.
Quel?
C'est
la même question que lui. Parce que si je me dis, si tu vas trop loin,
non, pas vraiment, c'est d'accord, on va voir par rapport à elle, qui dit tout le travail de la main à la main, c'est-à-dire qu'on a vraiment tendance à trop parler de moi, et pas forcément envie de nous
faire. Et c'est même, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est ce qu'il a dit un petit peu, c'est si je suis trop en haut, en réalité je ne bouge pas. Je reste en place dans ma mentalité. C'est la même référence. Alors je vais vous répondre à tous les deux encore une fois. Quand je dis que tu vas aller là, je n'ai pas dit de négliger tout ce qu'il y a avant elle. Tu vas avoir du plaisir dans chaque étape, dans chaque mètre, dans chaque roulement de roue de ta voiture en allant à elle. C'est ça le secret de la science mécanique. Aujourd'hui, on est dans le rouler vers. Et les gens qui attendent seulement d'arriver, eh bien, tout ce chemin pour arriver est ratifié. Et moi, je suis en train de dire qui fait le voyage lui-même. Comprenez ? Comment tu sais qui fait le voyage ? En comprenant que chaque pas dans ce voyage, il contient le but. Et là, tu vas avoir une force de déroulat énorme. Même maintenant. Qu'est-ce que
c'est là, vous avez parlé du discours.
Qu'est-ce
c'est
le chauffeur français. Celui qui t'a conduit. Ça marche pas. En hébreu, le chauffeur, c'est le meilleur conducteur. Et en français, c'est le plus mauvais. C'est pas le chauffeur. D'accord ? Voilà. Donc il y a plusieurs chauffeurs. Il faut que tu choisisses le tien. Pas tous les chauffeurs autres sont de la même qualité. Il y a un chauffeur Katan, qui s'appelle le chauffeur Gadol, et un chauffeur Katan, et un chauffeur Benoni, ça dépend comment tu montes. Chacun va entendre finalement le chauffeur, un par conviction, le l'autre par attitude. Il va être convaincu aussi.
Je
ne
sais pas comment tu dis, je ne sais pas pour imprégner ou pas, à quel moment est-ce que tu vraiment te dire.
Au moment où tu sens que ça déborde de toi, que tu ne peux plus contenir. C'est-à-dire que tu ne peux plus contenir la chose, tu sens que tu es obligé, c'est trop fort pour toi. Donc si tu ne le fais pas, tu vas imploser, donc tu dois commencer à donner, à diffuser. Même si au début tu vas être un petit peu boiteux, tout doucement tu vas t'habituer. Tu vas faire tes places. Et tu vas commencer à donner. Donc il ne faut pas avoir ça. Quel ? Dernière question.
Alors on parlait de
l'histoire de la salle. Quel ? Il sort carrément de la salle. C'est comme s'il y a un spectacle qui commence jamais. Il y a un quart d'heure de retard, 20 minutes de retard, le mec il dit bon, attends, vous m'avez coulé, moi je m'en vais. D'accord.
Et en fait, on est
que ceux qui l'attendent par l'intérieur. Je salue qui portait, ceux qui l'attendent passivement, ce n'est pas une bonne attente. Ici, au Mahon Meir, on attend activement. C'est-à-dire qu'il doit tout faire pour activer le processus tout en attendant. Donc ce n'est pas une attente passive, ça s'appelle une CPIA, c'est-à-dire une attente active, si tu deviens associé à cette attente. On se voit, ça va ? Non, le vendredi soir, il n'y aura pas de cours parce que c'est trop tard. Par contre, le samedi matin à 7h30, avant la fila, à 8h, on commence 8h30 hein, la fila, à 10h30, il y a un deuxième cours pour moi à la maison. Après, il y a le Mira. Avant, il faut donner un cours pour les Israéliens à la synagogue, donc ceux qui veulent, c'est à 6h. Après ça, donc il y a le Mira. Après le Mira, on revient chez moi pour faire le petit avec encore un cours.
Mm-hmm.
Et Il a besoin de ce tour. Je pense qu'il est à point.